Vous écoutez France Culture.
Deuxième étape du Bon MX avec ce débat que j'ai intitulé « Urbanisation et urbanité ». Comment la ville en Inde, et notamment Bombay, cette mégalopole de 19 millions d'habitants, intègre et transforme les rapports de caste et de classe entre gratte-ciel et bidonville. Pour débattre de cette question, je reçois Odette Louiset, géographe, professeur à l'Université de Rouen, l'anthropologue Jalal Jarrahzeh, membre du Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud à l'École des hautes études en sciences sociales, et Christophe Guilmoto, directeur de recherche en démographie à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Toute la semaine donc sur France Culture, le Bombay Mix. Dans le Bombay Mix, nous allons aborder Bombay, la ville de Bombay, sous tous ses aspects culturels, économiques, financiers, religieux. Et je voudrais commencer cette semaine par une petite lecture, celle tirée de Un million de révoltes de V.S. Naipaul. V.S. Naipaul, né aux Caraïbes, d'origine indienne, qui décrit la ville de Bombay comme ça.
Bombay est une foule. Mais ce matin-là, arrivant de l'aéroport et ayant déjà couvert une certaine distance en ville, je commençais à me dire que la foule sur les trottoirs et la chaussée était innombrable et qu'il devait se passer quelque chose d'inhabituel. À cause de cette cohue, le flot de voitures circulant vers la ville avançait au ralenti. Lorsqu'il était immobilisé à certains croisements par des feux ou des policiers, ou les deux à la fois, les trottoirs n'embrouillaient que davantage et tel un torrent humain déferlait à travers la rue, dans une écume bondissante de vêtements pâles et légers, qu'il semblait qu'une vanne invisible avait été ouverte et que si elle n'était pas refermée, le flot des piétons traversant la chaussée s'étendrait partout, et les bus rouges et les taxis jaunes et noirs délabrés seraient complètement encalminés, chacun au centre d'un tourbillon humain.
Odette Louiset, vous, votre première impression de Bombay, est-ce qu'elle ressemble à celle de V.S. Naipaul ?
Oui, elle peut ressembler. C'était la chaleur, et c'était effectivement la foule, en particulier à contre-courant du flux qui sortait de la gare Viti, à l'époque, je me souviens. Cette impression qu'on ne peut pas aller dans le sens inverse de celui de la majorité.
Jalal Jarrahzeh, vous, quand vous êtes arrivé à Bombay, vos premières impressions ?
C'était en 1978 et j'ai eu des impressions aussi de ce genre de flux humains gigantesques. Mais en plus, je me souviens d'avoir traversé le quartier des usines par le train en arrivant. Donc j'ai eu ces souvenirs de cheminées d'usines. Et la ville était habitée par plein de gens qui vivaient sur le trottoir. Même tout près de la gare, il y en avait. Donc cette impression d'agglutination de peuple.
Quand on dit foule, il faut donner un chiffre. Bombay en 2009, c'est 19 millions d'habitants. Et un autre chiffre aussi qui frappe, puisque vous venez de citer le mot trottoir, 55% de cette population n'a pas accès à un habitat fixe, donc vit, on pourrait dire, dans les bidonvilles ou ne vit pas dans des immeubles. Donc là, on va aborder tout de suite une problématique bidonville, comment est-ce qu'on aborde ce genre d'habitat. Qui sont ces gens, Christophe Guilmoto ?
Bombay a l'avantage de ne pas être une ville indienne comme les autres. Très clairement, elle échappe à la catégorisation des autres villes indiennes qui sont le produit de leur environnement régional, même pour Delhi, qui est une capitale et qui est une ville fondamentalement Punjabi, une ville du nord de l'Inde, de la plaine endogangétique. Bombay est le microcosme indien. Bombay ne peut être comparé, toute proportion égale, mais les proportions sont pratiquement similaires, qu'à New York. On peut, évidemment, géographiquement, l'histoire coloniale aussi de Bombay, le fait qu'il ait changé de main comme New York, et puis le fait que s'entasse une population totalement hétérogène, et ce depuis très longtemps, parce qu'en fait il y a une région, Bombay appartient à l'état du Maharashtra, un état qui est relativement homogène du point de vue de son histoire sociale ou de son histoire politique, mais Bombay s'en échappe. Après tout, il est sur la côte, l'état du Maharashtra, ou plutôt les royautés marathes étaient installées sur le plateau, et là on est au-delà des Ghâts, on est sur la côte, une région à part qui s'appelle géographiquement donc le Konkan, qui est une région qui est historiquement beaucoup plus ouverte à l'extérieur du monde, qui est une région d'échange, où il y avait auparavant des communautés juives ou des communautés arabo-musulmanes installées depuis très longtemps, et puis où se sont installés les Portugais, donc Bombay, Bahia.
Et la bonne baie.
La bonne baie où se sont installés les Portugais, un petit peu au nord. Ils ont converti pas mal de gens. Donc dès le départ, non seulement les populations locales n'étaient pas des populations typiques, mais en plus, elles ont été transformées par le contact avec l'extérieur. Et puis ensuite, des communautés marchandes s'installent au fur et à mesure. À partir du XVIIe siècle, quand Bombay est récupéré par les Britanniques, et puis au fur et à mesure, surtout à partir de la fin du XVIIe siècle et à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, quand les sept îles d'origine sont progressivement rattachées au continent par un travail tout à fait remarquable de récupération des terres, d'assèchement. Et donc Bombay, dès cette époque-là, donc au 19e, hein, il compte déjà plus de 100 000 habitants au début du 19e, est la ville ouverte, n'est pas une ville qui représente le Maharashtra typique. Et ce n'est que vers la fin du 19e siècle, quand il y a le fameux boom du coton, dans la seconde partie du 19e siècle, que l'immigration de travailleurs venant de l'Interland, de l'arrière-pays, vont être plus importantes et vont remaratiser la ville.
Donc Bombay, aujourd'hui, Christophe Guilmoteau, 19 millions d'habitants, c'est aussi toujours cette ville qui attire non seulement des gens du Maharashtra, mais aussi des gens du sud de l'Inde et de l'Inde du Nord. La tradition continue.
Bien sûr, ça se réfléchit bien sûr en termes de migration. Il y a un flux qui est ininterrompu, qui peut être relativement lointain. Par exemple, on a beaucoup de gens qui viennent du Bihar, mais on a des gens aussi qui viennent de l'Inde du Sud, avec différents niveaux de cohabitation. On a un très grand nombre d'expatriés, d'étrangers. On a même aussi des communautés qui viennent de pays voisins comme du Bangladesh ou du Népal qui sont installées là. En termes linguistiques, c'est aussi une des villes les plus hétérogènes, puisque normalement on devrait s'attendre à ce que le Marathi, la langue du Maharashtra, domine, mais je crois que le Marathi domine à peine la moitié de la population. On a une composante Gujarati, donc c'est l'état qui est au nord-ouest de Bombay, qui est très important, c'est près de 20% de la population. Je crois qu'on a à peu près le même nombre de gens qui parlent un hindi, mais un hindi qui regroupe le bihari, l'ourdou des musulmans et l'hindi des gens du nord. C'est en fait même le langage qui est très souvent utilisé dans la rue. C'est une espèce de hindi relativement corrompu d'anglais et de marathi. On a aussi, comme je l'ai mentionné, des migrants d'Inde du Sud. En termes religieux, on a une très grosse communauté musulmane qui est très active, elle aussi dans le commerce, mais qui fournit aussi beaucoup de travailleurs dans l'industrie. On a des communautés chrétiennes donc, qui étaient là au départ, et puis on a d'autres communautés singulières, comme les Parsis, qui sont en très petit nombre.
Les Parsis, les Jains.
Les Jains. On a même quelques bouddhistes, puisque beaucoup d'intouchables se sont convertis au bouddhisme dans le Maharashtra. Donc on a une population qui est vraiment tout sauf représentative de l'Inde, ou alors d'une espèce d'utopie indienne, avec un mélange, il faut le reconnaître, parfois détonnant, de communautés extrêmement différentes qui sont rassemblées, non pas sur un projet politique, sociale ou culturelle, mais avant tout sur une volonté d'entreprendre ensemble dans le lieu qui est le lieu le plus riche de l'Inde en termes des échanges, en termes de production économique, en termes d'exportation. Enfin, encore une fois, la Bombay ne représente pas du tout sa place démographique puisqu'il fait plus de 20% ou 25% des exportations, par exemple, à lui tout seul. Ah, 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 ah.
Donc nous sommes à Bombay, Mumbai pour certains, 19 millions d'habitants, la moitié de la population n'a pas accès à un logement, 53% de la population n'a pas accès aux toilettes, tout ça pour vous donner un petit peu le décor. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement de nom pour vous qui avez connu, on pourrait dire Bombay quand ça s'appelait encore Bombay, Gérard Rosé?
Je crois que c'est pas très important. Enfin, si les gens l'acceptent. Ah, il semble qu'à Mumbai, je me suis habitué à dire Mumbai, la plupart des gens soient passés assez facilement de l'un à l'autre, sauf des gens qui ne voulaient déjà pas que Bombay soit dans le Maharashtra. Donc ils ont tout ce qui est une reconnaissance de la culture marathi les énerve. Ils sont malgré tout assez minoritaires et pour beaucoup de gens, c'est passé facilement, c'est pas un problème énorme.
Le problème venait que la dénomination Mumbai venait à l'instigation d'un parti pas très sympathique, le Shiv Sena, qui à un moment a dirigé à la fois le Maharashtra et Bombay. Un mot sur ce parti ultra-hindouiste nationaliste?
C'est un parti fondé en 1966 dont le but était de l'affirmation de la culture marathi et la reconnaissance de droits spécifiques pour les marathis et pour les gens qui parlaient le marathi, spécialement dans la ville de Mumbai. C'est un parti urbain et né pour la ville, par la ville. Il a toujours eu des projets urbains, c'est le seul projet qu'il a pu tenter de mener à bien, il l'a raté d'ailleurs. Et sans ça, au sujet de Mumbai et de la Shiv Sena, il n'est pas vrai que ça soit une spécificité de la Shiv Sena. Tous les marathisants, donc les gens qui parlent le marathi, et la majorité de la population était pour Mumbai. Enfin, c'est pas... On a repris... La Shiv Sena avait repris la revendication du mouvement pour la création du Maharashtra. Vous savez qu'il n'y avait pas d'état linguistique à l'indépendance en Inde en 1947, mais des états, c'était des ce qu'on appelle des presidencies, qui étaient des circonscriptions administratives fondées par les Britanniques. Et donc on a créé cet état linguistique de 1954 à 1960. Il y a eu un gros mouvement avec des martyrs, il y a eu une centaine de morts. Et une des revendications, c'était Mumbai à la place de Bombay.
Shiv Sena, donc l'armée de Shivaji.
De Shivaji.
Shivaji, donc guerrier marathe. Dont la statue équestre fait face à la porte de l'Inde qui donc elle-même qui donne sur l'hôtel Taj Mahal pour préciser un petit peu la géographie de la ville. Qui était Shivaji?
Shivaji, qui est mort en 1680, était le fondateur de l'Empire Marathe, donc d'une des plus grandes créations politiques de l'Inde, de l'Inde moderne, c'était la même époque que notre XVIIe siècle. Et c'est un homme qui a laissé dans l'entièreté du Maharashtra une aura extrêmement favorable et extrêmement forte. Donc on pourrait le comparer, on pourrait mélanger Napoléon et Jeanne d'Arc pour avoir une idée de ce que pourrait être Shivaji dans l'imaginaire maharashtrien.
Contre qui a-t-il guerroyé?
Principalement contre l'empereur Aurangzeb, mais contre d'autres souverains aussi. Il a couroyé aussi contre les Gujaratis, donc il s'est livré notamment à des pillages. Enfin, c'était pas un saint, mais c'est pas ainsi que les gens le voient. Ils le voient comme un homme fort et un homme juste.
Bombay, c'est une immense ville, 19 millions, mais il n'y a pas que Bombay qui dépasse ce genre de proportions. Il y a 5 ou 6 grandes villes en Inde qui ont des tailles de cette envergure. Calcutta, New Delhi, Madras, donc avec cette nouvelle appellation Chennai, Hyderabad. Donc tout ça, on parle d'une Inde urbaine. Cette Inde urbaine représente un peu moins de 300 millions de personnes. 700 millions encore vivent dans les campagnes. Cette urbanisation de l'Inde, est-ce qu'elle produit une urbanité? C'est ça un peu que vous avez travaillé, vous, Odette Louiset, en tant que géographe. Et comment ça se passe, puisque... Il faut aussi dire qu'à Bombay, il y a des immeubles, mais à côté, il y a des bidonvilles ou des slums. Alors, réglons tout de suite le problème de la traduction de bidonville et slum. Odette Louiset, vous avez écrit là-dessus.
Oui, bon, je me suis interrogée sur l'existence de cette diversité de termes pour désigner des quartiers. Je crois qu'il n'y a pas de slum générique, je crois qu'il n'y a pas de bidonville générique. Ça, c'est un petit peu le problème des clichés ou des stéréotypes. On est devant une grande diversité de situations urbaines, y compris dans les quartiers dits informels ou illégaux. Et à vrai dire, on n'arrive pas à trouver d'adjectifs qui conviennent pour désigner ou pour préciser ce que sont ces quartiers. Et pour ma part, je pense que ce sont des quartiers urbains. Ils sont vraiment dans la ville et de la ville. Et je crois que parfois, on est un petit peu gêné par ce terme général de slum ou de bidonville. Donc c'est un petit peu mon embarras, finalement. Et après quelques décennies de travail sur ces quartiers, je crois qu'effectivement, on peut trouver un certain nombre de caractères qui pourraient les différencier de quartiers dits formels, mais je crois qu'il faut y aller avec beaucoup de prudence et beaucoup de précision.
Alors dites-moi un petit peu comment s'est construite cette ville indienne selon vous.
Je crois que pour ma part, j'ai essayé de rechercher, c'est à Bombay ou ailleurs, le sens de la ville pour les Indiens. Qu'est-ce que signifie de vivre en ville ? Que signifie cette urbanité, ce mode de vie urbain en Inde ? Je pense qu'il contient de l'urbanité en général, c'est-à-dire qu'il serait une urbanité présente partout dans le monde, et puis une rencontre avec une manière d'être qui serait, alors pour moi géographe, j'ai essayé de la retrouver dans ce qu'on pourrait appeler la spatialité, c'est-à-dire la manière dont on est avec son espace, mais évidemment, cette façon d'être avec son espace inclut les liens sociaux.
Les liens sociaux, ça veut dire les castes, notamment en Inde, Jalal Rosé. Quand on arrive en ville, on pourrait dire, quand on arrive à Bombay, qu'on vient du village, avec ses coutumes alimentaires, sa répartition verticale, horizontale, selon la caste ou la communauté à laquelle on appartient, qu'est-ce qu'on fait de tout ça quand on est à Bombay, Jalal Rosé? Est-ce que ça se reproduit? Est-ce qu'on pourrait dire qu'on vit à Bombay comme on vit au village?
On ne vit pas comme on vit au village, puisque les castes ne sont pas organisées dans des rapports d'interdépendance. Elles sont organisées de manière différente, mais on ne va pas les perdre. Au contraire, on va souvent en découvrir, en faire vivre plus fort des dimensions qui étaient un petit peu secondaires au village, notamment des dimensions de solidarité, la capacité des castes à occuper des espaces. Donc à s'assurer une certaine sécurité, et aussi à créer des associations, des clubs. Je suis souvent allé dans des immeubles qui étaient habités par une seule caste, très souvent des Marathas ou des Kumbhis, ce sont les castes dominantes, donc ce sont les plus nombreuses et celles qui ont le pouvoir politique, dominantes du Maharashtra. Et dans ces immeubles, il y avait des clubs de jeunes, des clubs d'adultes, des clubs religieux. Très souvent, dans ce qui serait chez nous une cité HLM, mais un petit immeuble, on va trouver 20 ou 30 clubs qui indiquent une socialité très riche. Et cette socialité, elle est liée à la caste. Mais pas seulement. Disons qu'il y a une espèce de volonté de vivre la vie urbaine. Ces clubs vont s'intéresser au cinéma, au sport, à la culture. Ils sont abonnés à des journaux. On ne tourne pas en rond autour d'affaires de castes anciennes. Mais cependant, la base, ce qui permet aux gens de vivre facilement ensemble, de partager des repas, de se connaître très intimement, c'est le fait que tout le monde dans le bâtiment appartient à la même caste.
Alors, caste.
Ils viennent de la même région, mais souvent du même village.
Alors, caste dans un village, essayez de nous dire comment ça fonctionne dans cette répartition du pur et de l'impur. Puisque Gandhi disait l'Inde, c'est l'Inde véritable, l'Inde vraie, elle est dans les villages, dans les 500 000 villages. On a dépassé les 500 000, on est à 600 000 villages pour 4 378 villes en Inde. Je vois réagir, Odette Louiset.
Oui, parce que je crois qu'on est face à un gros problème de présentation. Effectivement, on a cette idée d'une Inde villageoise qui serait l'Inde authentique. En réalité, les villes indiennes ont toujours existé et il n'y a pas plus d'authenticité dans les villages. Mais là, on est un peu prisonnier d'images d'Épinal repris par Gandhi, mais qui nous viennent du romantisme européen. C'est-à-dire que l'Inde étant un peu notre antiquité, une immuabilité, celle que nous n'avons pas réussi d'une certaine manière, et le village étant pour les Européens le lieu, je dirais, de l'authenticité, eh bien, il y a une espèce d'association. Et je Moi, pour ma part, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision. Et je crois que s'il y a une authenticité culturelle, puisque en général, quand on parle d'authenticité, elle est tout à fait partout. On n'a pas de faux Indiens et de vrais Indiens. Et je crois aussi qu'on a une grande illusion quant à cette immuabilité. Je pense qu'on aurait tort de croire que les castes dans les villages, c'est une organisation qui n'a aucune historicité. Je crois qu'elle a, les castes changent, y compris dans les villages les plus reculés. C'est pas une structuration qui reste totalement fixe, sans changement.
Expliquez-nous quand même comment c'était construit entre le Brahman et l'intouchable qui n'appartient même pas à cet ensemble.
Alors, en réalité, c'est... Bon, je crois que tous les auteurs s'accordent pour présenter la chose. Vous n'avez pas de mot qui signifie caste dans les langues indiennes.
Il vient du portugais.
Oui, qui voudrait dire pur, enfin, on ne sait pas
chaste.
Trop. Il y a un certain nombre d'hypothèses, comme toujours dans ce type de traduction. C'est probablement, enfin, on est face à un schéma de société, un modèle idéologique, qui est le modèle brahmanique, qui nous explique que les différentes castes issues de l'homme primordial, avec une hiérarchie du plus pur au plus impur, bon, qui avait été, très étudiée par Dumont, en tout cas dans notre version française. Et cette dimension du pur et de l'impur se retrouve, dans une organisation beaucoup plus pragmatique, dans les jatis, qui sont des groupes plus restreints, mais pas pour autant des sous-castes. C'est très très compliqué en quelques minutes de vous donner un petit peu la clé. Mais les jatis sont des groupes socio-religieux qui sont utilisés, pour tous les actes importants de la vie, puisqu'on naît dans une jati, on se marie dans une jati. Les jatis sont replacés dans ce qu'on appelle les varnas, qui sont les grands, les principaux groupes.
Il y en a quatre.
Voilà.
Donc le brahman en haut, le prêtre, ensuite...
Les guerriers et les rois, les commerçants, et puis
les artisans.
Et certains paysans. Alors la caste des paysans, c'est un petit peu compliqué.
Et tout en bas ?
Et tout en bas, disons, ce qu'on appelle les hors-castes, les intouchables. Alors, ce qui est un petit peu troublant, c'est que ces intouchables ne figurent pas dans les textes, canons de l'organisation. Et on a beaucoup d'hypothèses pour expliquer leur présence.
Les intouchables que Gandhi appelait les enfants de Dieu, les Marathis appellent les Dalits les opprimés, les écrasés.
Mais les intouchables, sont répartis en une multitude de jatis eux-mêmes. On n'a pas une seule caste d'intouchables. Et pour revenir à la ville et à la caste, je crois que notre problème, c'est que très longtemps, on a pensé incompatibilité de la caste et de la ville parce qu'on était un peu prisonnier de notre tableau idyllique de la caste et du village, en pensant que l'urbanisation, et ça s'est beaucoup dit dans les années 70, en pensant que l'urbanisation allait détruire la caste, tout simplement parce que dans la sociologie européenne, on associe la caste à l'acculturation. Et de ce fait, on pensait qu'avec l'urbanisation, l'industrialisation, les Indiens allaient plutôt se configurer en classe sociale. En fait, aujourd'hui, la question est très compliquée. Les castes changent, mais elles ont toujours changé. Elles se sont toujours adaptées à ce qui se passait. Et on n'est pas pour autant devant un schéma, de mon point de vue, de classe sociale qui aurait remplacé les castes.
Bombay, 19 millions d'habitants, Christophe Guilmoteau. L'Inde urbaine, si on l'élargit aux autres villes, Delhi, Madras, Calcutta, ces grandes mégalopoles avec en dessous d'autres moyennes villes, on arrive à une Inde urbaine aux alentours de 300 millions d'habitants sur un total de un peu plus d'un milliard d'habitants en Inde totale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les dynamiques justement d'urbanisation, de croissance de ces gros pôles que sont Bombay, Delhi, Calcutta et Madras, et un petit peu comment se gèrent ces deux Indes, si on peut encore opposer l'Inde urbaine et l'Inde rurale.
Je crois qu'on peut encore les opposer, même si les échanges sont bien sûr accélérés entre le monde rural et l'urbain, tout simplement parce que la concentration de la population propre aux villes et propre à Bombay, qui a les densités les plus fortes de toute l'Inde urbaine, ces densités, ces concentrations de peuplement créent d'autres formes de rapports sociaux et également de rapports économiques. Cette Inde urbaine, elle a une histoire assez classique parce qu'elle est portée par la croissance démographique de l'ensemble du pays. Là, elle n'a pas de caractéristiques particulières. Il y a un moment où, de l'histoire urbaine, où les villes étaient particulièrement dangereuses. C'était la même chose en Europe. La mortalité y était forte parce que les conditions de vie y étaient particulièrement malsaines par rapport à la campagne. C'est le cas de Bombay, puis qui s'est illustré notamment à la fin du 19e par des épidémies de peste bubonique épouvantables, non seulement parce qu'elles faisaient beaucoup de morts, mais finalement elles en faisaient parfois moins de morts, elles en faisaient moins que la variole ou le choléra, mais surtout parce qu'elles créaient une horreur épouvantable dans l'esprit des populations, et il y avait des reflux, des centaines de milliers de gens qui quittaient la ville. Ah, ça, c'est la particularité des attaques de peste. Et d'ailleurs, la dernière attaque de peste a eu lieu non pas à Bombay, mais à Surat, qui est une ville à quelques centaines de kilomètres au nord de la, sur la côte au nord de Bombay.
C'était beaucoup plus récent, c'était en 1994.
Oui, et là, il y a eu très peu de morts. Il y a eu une couverture médiatique, d'ailleurs, tout à fait exceptionnelle. Et là, on peut saluer l'Inde par rapport à d'autres pays comme la Chine, la manière dont ils ont pris à bras-le-corps la question. Mais il est vrai que la peste qui avait marqué Bombay de la fin du 19e siècle était avant tout un symbole d'horreur et n'est concevable à ce titre-là que dans l'espace urbain. Mais pour revenir sur la croissance démographique, c'est pas tellement finalement les aléas de mortalité qui distinguaient Bombay, c'était plus l'apport régulier de la migration qui était lié à la fois sur la capacité de la ville à attirer des entrepreneurs, de la main-d'œuvre, ça c'est évidemment la première dimension, mais aussi parfois le fait que la ville était perçue comme un havre de paix économique lors des crises de subsistance dans les campagnes. Et ça, c'est surtout vrai du 19e siècle, où beaucoup de crises de subsistance, donc des famines ou des disettes à l'intérieur du Maharashtra, sur le plateau du Deccan, vont aussi pousser des populations vers Bombay. Alors, il y a bien sûr, les mouvements sont très complexes, pas du tout des gens qui viennent s'installer à Bombay une bonne fois pour toutes. Souvent, il y a des gens qui viennent, vous les avez sans doute vus, qui viennent en tant que célibataires, donc qui investissent extrêmement peu dans la ville, qui vont dormir dans la rue, sous les arcades quand il pleut, ou alors qui vont prendre juste un lit partagé dans une chambre, dans un bidonville, ou avec des amis dans des immeubles, dans les anciens immeubles qu'on appelle les chawls, qui accueillaient les travailleurs de l'industrie, et puis qui viennent là pour un an, pour 6 mois, pour 2 ans, et puis qui repartent, et donc qui ne viennent pas en famille. Car la particularité de la ville de Bombay, c'est qu'elle est terriblement masculine. Et cette masculinité, évidemment, la population masculine ne se reproduit pas toute seule. Elle vient avant tout de ces flux migratoires qui n'impliquent qu'une grande majorité de d'hommes qui laissent leur famille à la campagne, au village, voire dans d'autres villes, et qui acceptent donc des conditions de vie tout à fait dégradées, puisque pour eux, le séjour à Bombay n'est qu'une petite partie de leur vie, ne fait partie que de leur projet migratoire, un projet qui, pour beaucoup d'hommes, est fondé sur la souffrance, sur l'exploitation, et sur une vie tout à fait misérable, qui est avant tout qui s'explique avant tout par leur volonté de pouvoir mettre de côté les sommes les plus importantes qu'ils vont pouvoir envoyer à la famille ou ramener au village pour se réinstaller plus tard.
Christophe Guilmoteau, le démographe que vous êtes, a sûrement vu passer le chiffre du sexe ratio de l'Inde, qui est à 110. Mmh. Donc je rappelle que la moyenne est à 105. Pour 105 garçons, on est 100 filles. l'Inde est à 110, la Chine fait pire à 120. Dites-nous qu'est-ce qui se cache comme réalité dans la vie des familles pour arriver à ce sex ratio de 110, donc 110 garçons qui naissent pour 100 filles en Inde.
Oh, il se passe une chose qui est très logique, c'est que beaucoup de familles ayant, la majorité des familles ayant décidé de limiter leur naissance, ils ont gagné le contrôle de leur descendance, et en même temps qu'ils voulaient en limiter donc la quantité, ils ont choisi de privilégier à l'intérieur de leur descendance les garçons sur les filles. Ils ont trouvé le moyen de le faire. Anecdotiquement, d'ailleurs, il se trouve que les premiers tests d'échographie ont été faits à Bombay au début des années 80. Et tout de suite, il s'est avéré qu'à la suite de l'échographie, les femmes ont dit « Mais quelle bonne idée, puisque c'est une fille, je vais donc pouvoir avorter. » Et l'idée qui consiste à vouloir faire un tri dans sa descendance, pas seulement éviter les naissances trop nombreuses, mais aussi éviter les naissances perçues comme superflues, comme celles de filles, est logique dans un cadre de vie dans lequel la progéniture masculine a souvent, pas systématiquement, une importance plus marquée d'un point de vue traditionnel, religieux, mais aussi, surtout, d'un point de vue social et d'un point de vue économique. Les personnes âgées, par exemple, vont aller vivre avec leur fils, les garçons des devoirs sur leur vis-à-vis de leurs parents, dont les filles sont d'une certaine manière affranchies. Les garçons sont d'ailleurs ceux qui récupèrent la plupart du temps l'héritage familial quand il y en a un, ou la maisonnée de la famille. Donc privilégier les garçons, c'est avant tout s'assurer des conditions de vie d'un point de vue social et économique favorable. C'est une discrimination rationnelle et qui s'impose d'ailleurs quand on a peu d'enfants, c'est-à-dire quand on a souvent le risque de ne pas avoir de garçons. Quand on a deux enfants, une fois sur quatre, on n'a que des filles. Donc on se retrouve dans cette situation particulière où la perpétuation de sa famille, en termes anthropologiques, on parlerait de famille patrilinéaire, n'est pas assurée par les filles. Donc c'est à ce moment-là où il faut forcer la nature et donc avoir des garçons là où normalement on devrait, d'un point de vue biologique, avoir une fille une fois sur deux. Donc voilà ce qui se passe. De fait, pour revenir sur Mumbai, ça ne concerne pas tellement la ville, puisque les urbains, d'abord je vous ai dit que la population de la ville était particulièrement biaisée vers les garçons, mais pour une autre raison, du fait du mouvement migratoire, et que la tradition patriarcale n'est pas si forte dans cette partie de l'Inde, notamment l'Inde côtière. C'est plus vrai à l'intérieur du pays, notamment à l'intérieur du Maharashtra ou à l'intérieur du Gujarat voisin. Donc Bombay est un petit peu à l'écart à ce titre-là, et sans représenter vraiment une Inde beaucoup plus moderne au sens européen, parce que d'une certaine manière l'Inde moderne c'est aussi celle qui discrimine contre les filles, enfin qui pratique la discrimination contre les filles, Bombay a quand même des traits relativement atypiques.
Christophe Guilmoteau, Indira Gandhi dans les années 70 avait pratiqué ou avait imposé des campagnes de stérilisation forcée. Est-ce que ce souvenir est encore vivace dans l'inconscient ou la conscience des Indiens, qu'ils soient à la campagne ou à la ville ?
Aujourd'hui, on ne le dirait plus parce que, évidemment, les générations qui ont subi les excès de l'état d'urgence, donc la période aux alentours de 1975, durant laquelle le Parti du Congrès a imposé une politique démographique coercitive, ces générations-là ont maintenant plus de 50 ans. Donc elles ne sont plus ces femmes-là ne sont plus les actrices de la démographie d'aujourd'hui. Et ce qu'elles disent à leurs filles est de peu de valeur par rapport à la manière dont la société a changé. Donc aujourd'hui, les femmes acceptent le contrôle des naissances de manière tout à fait délibérée. Il y a certes des communautés dans lesquelles la limitation des naissances paraît moins aller de soi, et c'est l'effort du gouvernement aujourd'hui porte plus vers les milieux ruraux, les milieux enclavés, les communautés défavorisées, que vers les populations urbaines ou même la population de Bombay, où tout simplement la congestion, l'entassement urbain décourage très fortement une forte natalité. Les conditions de vie sont celles. Et puis, comme je vous l'ai dit, bon, il y a beaucoup d'hommes seuls qui sont installés à Bombay. Donc, de toute façon, Bombay n'est pas vraiment la ville propice pour des grandes familles. Après tout, c'est l'endroit où on vit sans doute le plus mal pour un investissement en roupies constant, puisque c'est une ville aussi dont la croissance a été totalement contrariée par la géographie. Évidemment, une carte de Bombay qu'on ne peut pas représenter sur les ondes, comme celle de New York, mais encore plus, puisque Bombay est vraiment une pointe, une presqu'île totalement détachée du continent, un petit peu comme Dakar au Sénégal. Il n'y a pas de solution simple. Les développements du nouveau Bombay ou de l'agglomération de Bombay qui va au-delà de ce qu'on appelle le Grand Bombay, Greater Mumbai, sont encore limités. Et même si la croissance démographique à l'intérieur du centre-ville, donc l'ancienne île de Bombay, a baissé, néanmoins, on voit les zones du nord qui continuent à croître très vite.
À dire le monde entier a rendez-vous à Bombay. Tous les cultes sont aussi à Bombay, puisqu'il y a des églises chrétiennes, des temples hindous, des mosquées, des temples du feu dédiés au culte zoroastre. Donc toutes ces religions aussi cohabitent, on va dire, plus ou moins pacifiquement. On va parler de l'histoire plus ou moins récente avec vous.
Vous oubliez les bouddhistes.
Les bouddhistes aussi.
Notamment les néo-bouddhistes qui sont nés donc dans le cadre du mouvement Dalit, donc le mouvement d'émancipation des anciens intouchables. Vous savez que l'intouchabilité est interdite depuis 1950. Et que le...
Docteur Ambedkar, donc, qui était un des rédacteurs de la constitution indienne, lui-même intouchable,
s'est converti au bouddhisme en 1956.
A incité les intouchables
à suivre son exemple.
Donc, quand on
ce va... qu'ils font, mais il se passe pas d'années sans qu'il y ait des conversions au bouddhisme. Une des particularités de cette religion, qui est le bouddhisme, ils ont choisi le bouddhisme de Sri Lanka, Theravada, mais c'est compliqué pour eux, ils comprennent pas la liturgie. Donc très souvent, ces gens ont des pratiques hindoues et une identité bouddhiste, une identité politico-religieuse bouddhiste.
Donc toutes ces populations, tous ces gens avec leur alimentation, leurs vêtements, leur langue, leur religion sont dans Bombay. Qui fait la loi à Bombay, Jalal Gérard Rosé?
Les riches, comme partout.
De plus en plus?
Oh, ça fait longtemps. C'était quand même une ville qui a été fondée par le commerce et pour le commerce et par les étrangers. Hein. C'était un comptoir colonial.
Retracez-nous en quelques phrases, justement, cette transformation de Bombay.
Oui, ces îles ont été réunies par des comblements. Donc maintenant, on a une très longue presqu'île. Mais l'histoire a commencé... C'est d'abord une histoire de comptoir colonial. Donc c'était un vaste entrepôt où l'on drainait la richesse depuis l'arrière-pays, où l'on accumulait des biens précieux comme les épices et les étoffes.
L'opium?
Pas encore. Ça, c'est le 19e siècle, à l'époque où l'Inde était riche. Et à partir du moment où l'Inde s'est appauvrie, on a commencé à... Mumbai, Bombay, est devenue effectivement, la zone du trafic de coton et de l'opium. L'opium étant produit en masse en Inde à destination de la Chine, dans le but de ruiner la Chine. Je pense que tous les auditeurs ont à l'esprit les monstrueuses guerres qui ont été menées par l'Empire britannique afin d'assujettir la Chine en leur vendant de force de l'opium. Eh bien, cet opium venait de la région du Gujarat et il était transféré, il passait par Mumbai.
Donc, le textile...
Et ensuite, il y a eu la production textile à partir de 1850. L'opium n'a été interdit qu'en 1880. On a mis un certain temps à se moraliser.
Bombay, c'était la ville du textile, jadis, aujourd'hui.
Jusqu'en 1983, quand même, c'était une ville textile très importante. Il y avait le textile, le port et les grandes industries. À partir de 1950, les grandes industries au nord de la métropole, elles sont toujours là, en grande partie. Sur 40 km, il y a des industries à touche-touche. Tout ce qu'on peut trouver dans...
Mais alors, quand on se promène
aujourd'hui... La métallurgie et la chimie.
Mais quand on se promène aujourd'hui dans Bombay, on peut voir cette transformation du paysage urbain. Je peux citer un slogan anglais, « From the mills to the malls ». Donc la transformation des manufactures textiles dans des centres commerciaux. Et les mills, qui étaient donc ces textiles, ces industries textiles, avec à côté tous les logements, les chawls, qui faisaient la spécificité, on pourrait dire, industrielle ou industrieuse de Bombay, s'est transformé dans des centres commerciaux, dans des boîtes de nuit, dans des restaurants qui drainent une nouvelle population, on pourrait dire la classe moyenne dont on nous vante les mérites et qui a un pouvoir d'achat de plus en plus grand. C'est aussi ça la transformation de Bombay aujourd'hui, non, Jalal Jarrahousé?
Est-ce que je suis autorisé à m'insurger? Parce que les gens qui habitent dans ces tours, ces tours de 40 à 80 étages que l'on voit surgir à la place des anciennes usines textiles, c'est pas une classe moyenne, ce sont des riches et des super riches. Quand on connaît le prix du mètre carré à Bombay, qu'on évalue le niveau de luxe de ces habitations, qui en plus des écoles privées, et ces fameux malls, c'est des endroits où moi je n'ai jamais osé mettre les pieds, parce que c'est trop luxueux, et puis parce que ça vend 20 fois plus cher ce qu'on peut trouver dans la rue, donc je vois pas trop l'intérêt, si ce n'est l'intérêt d'être à la mode, hein, mais ça présente aucune espèce d'attirance pour moi. Et donc c'est bien caractéristique de cette ville, c'est qu'on a vu tout le sud et actuellement l'actuel centre de Mumbai, c'est l'ancien quartier des usines textiles, il y a 4 km². 4 km² qui appartiennent encore en grande partie, il y a 3 km² là-dedans qui appartiennent aux usines textiles, qui n'ont pas vraiment le droit de construire tout en ayant, enfin on triche constamment, il y a une bataille monstrueuse qui prend place entre les promoteurs, les propriétaires d'usines textiles, les habitants des chawls. Il y a un million de personnes qui vivent sur ces terrains d'usines textiles.
Les chawls, un mot...
Les chawls, ce sont les casernes industrielles.
Alors vous appelez ça caserne?
Oui, c'est un peu...
C'est des immeubles avec une cour...
C'est des immeubles, quoi. Des bidonvilles.
Avec une cour intérieure, avec plein de logements...
Dans le meilleur des cas, oui, il y a la cour intérieure.
Avec donc plein de logements qui desservent cette cour intérieure, avec... des toilettes collectives qui ont fait, on pourrait dire aussi, la réputation aussi de ces quartiers-là, parce qu'il y a aussi une convivialité. Là, je rejoins votre domaine de prédilection. Il y a toute une urbanité, une convivialité qui s'est créée parce que toutes ces populations qui venaient, on va dire, des quatre coins de l'Inde pour travailler dans les usines textiles de Bombay se côtoyaient notamment dans les chawls, Odette Louiset.
Oui, alors je ne suis pas tout à fait spécialiste des Scholes, mais sur la question de l'urbanité, ce que j'ai voulu montrer, c'est que l'urbanité n'est pas seulement observable dans ce qui nous rappelle la ville par des apparences, je dirais, qui nous sont familières. Mais pour ma part, c'est vrai que j'ai interrogé l'urbanité indienne, d'abord dans les slums. C'est-à-dire que la manière dont ces quartiers étaient niés comme urbains, enfin en tant qu'urbains, c'était un peu le déni de la ville pour ces quartiers, eh bien moi je dirais qu'un peu par provocation, mais ça a payé finalement, enfin j'estime que je suis arrivée à mes fins, c'est peut-être là que j'ai pu observer le plus cette question de l'urbanité. C'est-à-dire finalement, en faisant abstraction des formes auxquelles on est habitué et en se concentrant sur les relations, sur le lien social. Je ne veux absolument pas dire qu'il n'y ait pas d'urbanité dans les autres quartiers. Hein, mais pour ma part, j'ai approché cette question de la ville sous des apparences qui ne nous sont pas les plus familières, justement, pour essayer de se décentrer un petit peu par rapport à notre conception de la ville. Et c'est dans les bidonvilles que je l'ai trouvé.
Joël Gérard Rosé, vous vous insurgez tout à l'heure sur ces quartiers qui se sont transformés pour le bien-être des plus riches au détriment, on va dire encore, pour préciser, la moitié de la population de Bombay ne vit pas dans un appartement digne de ce nom. Donc la moitié de 19 millions d'habitants. Quand vous vous promenez dans Bombay aujourd'hui, qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui a changé, on va dire, dans l'espace, mais aussi dans l'esprit?
C'est l'appropriation de la ville par les riches. C'est justement cela. Je ne m'insurge pas contre les évolutions urbaines. Je sais que je n'y peux strictement rien. Mais il y a eu une série de pratiques et une série de changement du vivre urbain aussi. Maintenant, les gens riches, il y a toujours eu beaucoup de gens riches à Mumbai, hein, en proportion de la population, beaucoup plus que dans les autres régions de l'Inde, beaucoup plus que dans les campagnes aussi. Donc c'est une concentration de richesses, c'est là qu'il y avait les sièges sociaux des entreprises, c'est là qu'il y avait des concentrations de commerçants extrêmement, extrêmement aisés depuis longtemps. Mais on vivait même dans des milieux quelquefois très, très aisés. Je me souviens, j'ai connu M. Godrej, qui possède une série d'usines, un Parsi, qui possède une série d'usines dans les faubourgs de Bombay, et qui en possède dans toute l'Inde, et qui est un homme très riche. Il vivait dans un petit, dans deux pièces miteux, hein, vraiment pas. Et il semble qu'il y avait toute une. Même des grands bourgeois, mais toute une partie des gens qui n'imaginaient pas finalement qu'ils avaient besoin de quelque chose de gigantesque, qui aimaient vivre des petites vies de quartier. Bon, c'était dans les beaux quartiers, bien évidemment, les régions de Malabar, mais c'était pas. Ça, à part ça, on les distinguait pas tellement. Et maintenant, on a des choses absolument. Comme contre-exemple, vous avez la tour que vient de se faire construire. Viennent de se faire construire la famille Ambani. Ambani, c'est le premier industriel indien. Lui, c'est un Marwari. Et c'est. Alors, Marwari, ce sont les gens du Marwar, Rajasthan, qui ont fait une diaspora au 19e siècle dans toute l'Inde et qui sont la petite communauté où l'on trouve le plus d'industriels.
Et la réputation qu'ils ont, c'est d'être les plus radins de l'Inde.
Oui, et les plus riches. Ils ont beaucoup souvent commencé comme usuriers. Il ne faut pas généraliser, il y a beaucoup de petits épiciers de coins de rue qui sont marwaris, qui ne sont pas pires que d'autres. Mais lui, il s'est fait construire une tour de 22 étages, je crois quelque chose, avec il y a une plateforme pour hélicoptère sur le dessus. Toutes sortes de manifestations d'ostentation qui étaient complètement impensables, même pour beaucoup de gens riches il y a 20 ou 30 ans. Et en plus, il y a eu toute une politique de la. J'ose pas dire bourgeoisie, mais c'est un terme tellement déclassé qui fait vieillot. Mais en fait, disons de ces gens très aisés, pour s'approprier la ville. Ça a commencé à la fin des années 70, quand on a cessé de tolérer les pauvres dans l'espace urbain. Et quand Indira Gandhi est revenue au pouvoir en 1980, il y a eu un changement immédiat des politiques urbaines et on a commencé à expulser les gens des rues. Et vous pouvez pas savoir, Bombay a été le laboratoire. C'est l'endroit où ça a été le plus dur. C'était terrible. Ça a commencé. Moi, je suis arrivé, j'étais là en 1980, on a commencé à expulser les gens en pleine mousson. Alors, 50 000 personnes qui se trouvaient réfugiées dans des zones. Quand on les reloge, il n'y a jamais de solution de relogement. Ce qui fait qu'on se retrouve sur des terrains vagues, en pleine campagne. Il n'y a pas de ligne de bus, il n'y a pas de quoi s'abriter. On vous donne des bâches de plastique et débrouillez-vous avec ça.
Depuis 2004, Gérard Rosé, pour aller dans votre sens, 450 000 personnes ont été expulsées des bidonvilles, pas relogées, donc repoussées encore plus loin dans le nord de Bombay. 450 000 personnes, ça veut dire 90 000 habitations plus ou moins précaires détruites, donc dans ce grand mouvement de nettoyage finalement de ces petites poches de pauvreté, puisque c'est ça qui est en train de se passer, ouais. À Bombay, c'est que la pauvreté, on la repousse, mais ce monstre urbain prend la place sur les terres aussi.
Oui, on a construit, mais à mon sens, c'est pas des villes, quoi. Ce sont des quartiers de la ville qui sont très mal reliés en plus, donc on a des. Les gens qui ont choisi cela ne sont pas vraiment satisfaits.
Jalal Gérard Rosé, puisque vous avez la parole, vous avez vécu aussi, outre cette violence urbaine, ce nettoyage par les riches dont vous parlez aujourd'hui, une autre violence, celle des émeutes entre hindous et musulmans en 1993, qui a donné lieu à votre livre « Bombay en flammes 1993, le cri des deux mondes ». Et Dans tout ce que vous dites, vous illustrez bien une phrase que j'avais relevée dans un de vos livres. Vous disiez « J'aime cette ville entre le grandiose et l'abominable ». Vous avez vécu les deux ?
Oui, je crois, oui. Bien que la vie en général soit ni l'un ni l'autre, quand même. Les gens de Bombay sont des gens ordinaires, quelque part. Et, enfin, ils sont proches de tous les autres. Mais c'est vrai qu'il y a des moments qui peuvent être très forts, quoi. Des moments de... Bah oui, même c'est vrai que la prise d'assaut du train à 6h le soir, elle a quelque chose de grandiose, tant qu'on ne rentre pas dans le train. Parce que là, on perd rapidement plusieurs dizaines de centimètres cubes de sa substance. Mais
1993, quand même, c'était un autre contexte. Remettez-nous dans le contexte.
Oui, c'est
un
contexte qui n'est pas mort, c'est le contexte des tensions intercommunautaires et qui sont liées pour moi là, à ces tensions pour l'espace, quoi, cette appropriation de la ville par une minorité. Ça a rendu l'atmosphère délétère déjà avant. Ça faisait des années que les gens commençaient à se détester les uns les autres. Et puis, personne n'est capable de résister. Les luttes, ce qu'on appelle les luttes urbaines, les luttes pour le logement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, vraiment. Ou alors, l'État est trop fortement du côté des gens qui veulent s'approprier l'espace. Vraiment. Toujours est-il que, un jour ou l'autre, ça pète. C'est une thèse qui ne résume pas tout. Disons que on s'est quand même battu vraiment pour des enjeux qui étaient des enjeux religieux et politiques.
Décembre 92.
92.
Qu'est-ce qui se passe à Ayodhya, dans cette ville de l'Uttar Pradesh ?
Dans le nord de l'Inde, il y a une ancienne mosquée qui avait été fermée, qui a été puis rouverte en 86, qui est abattue par une foule d'hindous qui avait été chauffée durant des années par des mouvements comme les nationalistes hindous, dont la Shiv Sena de Mumbai faisait partie. Elle s'est intégrée à cette mouvance en 1984. Et c'est la chute de cette petite mosquée a provoqué une insurrection de la jeunesse musulmane.
Donc, et à Bombay, qu'est-ce qui se passe ?
Il y a eu des massacres. Enfin, la première phase, en décembre, donc c'est la police qui tue des jeunes musulmans révoltés. Et les jeunes musulmans révoltés, dont tout ce n'était pas sain et dont certains des beaux salopards, attaquent aussi des hindous dans les quartiers où les hindous sont minoritaires dans des quartiers musulmans. Donc ils les attaquent, ils brûlent leurs maisons, ils brûlent les gens. Enfin, donc des choses qui font peur et qui donnent la colère aussi aux hindous. Les hindous, qui se voient le rappeler, sont majoritaires dans la ville. Plus de 75% des gens sont hindous. Et en plus, des petites minorités, les Parsis, par exemple, qui vont se trouver du côté des hindous dans la contre-attaque qui va prendre place en janvier, à la suite de nouvelles provocations de musulmans. On peut pas dire musulmanes, c'est pas les musulmans en général qui font ça. C'était des groupes, quoi, soit des échauffés, soit des profiteurs. Enfin, bon, ça recommence, et là, cette fois-là, ça va être les hindous, donc la majorité de la population, et surtout les jeunes, bien entendu. C'est toujours eux, les jeunes des clubs de sport et des clubs de combat, et puis des énervés, des voyous, bien entendu. Ils ont un peu l'habitude de la castagne, on les prend comme chefs dans ces moments-là, qui vont se revenger un petit peu ce qui s'est passé début décembre, donc contre-attaquer dans les quartiers musulmans, et là, il y aura beaucoup plus de morts, il y en aura 500, 600. Alors, la police faisant aussi des tués, mais c'est plus les musulmans qui prennent. Et il y a aussi pas mal d'hindous qui sont tués. Ce sont des combats qui vont... Pendant 10 jours, la ville va être en feu, quoi, avec des incendies partout, où l'homme était un loup pour l'homme, quoi. C'était des moments où il semble qu'il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas beaucoup de... Il n'y avait pas beaucoup d'instants pour les nuances, quoi. Dans les quartiers où j'étais, et pour savoir si c'était un hindou ou un musulman, on les déshabillait. Donc c'était quand même...
On va vérifier s'ils étaient circoncis ou pas.
Ben oui.
Comment tout cet épisode douloureux, dramatique, violent, va s'inscrire dans l'histoire de Bombay, selon vous, Jalal Jawaharzai ? Est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui ?
Oui, on en parle beaucoup. Surtout dans les milieux populaires, ça veut dire... Milieux populaires, ce sont les milieux où la police avait laissé libre cours aux émeutiers, parce qu'elle ne protégeait que les quartiers riches. Ce qui est quelque chose qui arrive souvent, en fait, dans les luttes urbaines, enfin, dans les conflits. Et là, ça a été très marquant. Et donc, les gens ont vécu des choses qui n'ont pas atteint les privilégiés de la ville. Ils ont pu voir brûler des maisons, jeter des gens par les fenêtres, ce que j'ai pu voir, moi, ou simplement brûler le taxi en bas de chez eux, ou entendre les bruits. Les bruits de l'émeute sont des bruits terribles. vraiment dans les expressions des gens, j'entends encore souvent dire c'était avant l'émeute ou c'était après l'émeute, pour se fixer le temps.
Bombay, Jalal Jarrahusai a été aussi marqué par une autre violence, celle du terrorisme, en 2006 dans les trains de banlieue, ouais. En 2008 plus récemment aux grands hôtels Taj, Oberoi, Léopold Café, qui est un café parsi bien connu de tous les touristes qui viennent dans le sud de Bombay à Colaba. Qu'est-ce que ça a changé aussi, ça, ces agressions de la main extérieure, alors la main extérieure c'est toujours la main du Pakistan, dans la psyché de Bombay selon vous?
J'ai l'impression que à la fois il y a une volonté de surmonter les épreuves qui est assez forte, de montrer qu'on en a, enfin, c'est très machiste l'idéologie dominante à Mumbai, hein. Et c'est comme au Maharashtra quand même, on veut pas être maharashtrien, mais c'est les maharashtriens sont très imbus de ces idéologies mec. Mais ce sont pendant, à côté de cette volonté de tenir et d'être digne, qui est quand même générale, et j'ai aussi très fortement l'impression que les gens mettent ça de côté pour des jours meilleurs ou des jours pires, quoi. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas. Dis-tu, je peux rien faire pour l'instant, mais on verra, je te rendrai un chien de ma chienne, quoi.
C'est drôle parce que je discutais.
J'ai l'impression que la ville n'est pas sortie des grandes horreurs à cause de. Notamment cette perpétuation de la violence.
C'est drôle parce que je discutais des attentats de 2008 avec une partie de l'Alliance française de Bombay qui me disait, quand j'étais petite, mon père me disait, s'il arrive quoi que ce soit à Bombay, tu te réfugies au Taj. Elle me dit maintenant, je ne peux même plus aller au Taj Mahal, puisque même le Taj Mahal, ce symbole à la fois de la richesse et de la sécurité de la ville, a été attaqué. Et elle précisait dans la phrase d'après. Nous, riches, avons été frappés comme les autres qui prennent les trains en 2006, mais comme nous, on ne prend pas les trains en 2006, on était moins concernés. Et là, toute la ville, riche et moins riche, s'est sentie concernée parce que le Boroi, le Taj, nous aussi, on y va. Et du coup, on s'est retrouvés à égalité. Donc.
Oui, je crois que c'est une perception de riche. C'est ça, là, parce que les gens, effectivement... il n'est pas resté dans la mémoire collective, qui est en fait la mémoire de la presse. Il n'est pas resté grand-chose des attentats de 2006, mais dans la mémoire des gens qui prennent les trains de banlieue, il en est resté beaucoup de choses. Enfin, une des choses intéressantes à retenir, quand même, c'est qu'il y avait eu beaucoup plus de morts en 2006. Et c'était des pégreleux qui prenaient le train. C'était pas important, effectivement. Quand on a attaqué l'otage, ça a fait tout à fait un autre impact. Et j'ai pu visiter le café Léopold. Je suis allé comme ça boire une bière.
Oui, nous aussi.
En janvier. On m'a montré les impacts de balles sur le mur.
Ils ont gardé les impacts et tout le monde, effectivement...
est invité à communier.
Voilà, en face de l'impact de la Kalachnikov. Oui, c'est une façon de sacraliser un peu le lieu et aussi de continuer à faire du commerce.
Merci à Odette Louiset, Jalal Jarrahusai et Christophe Guilmoto. Ne partez pas, le Bombay Mix continue avec, dans un instant, notre documentaire Babel, Bombay.